Radio Campus Bruxelles 92.1.
Le programme que vous allez entendre est la rediffusion de Frontières, le magazine des seconds masters en journalisme. Il a été diffusé en direct le mercredi 26 mars. Bonne écoute.
La frontière, c'est l'affirmation que tout ne se vaut pas, qu'entre nous et les autres, il y a une différence.
La frontière, on a autant de raisons de la redouter que de l'aimer. Moi, j'ai les deux.
This is a new dimension in sound. This is
what I want to hear already.
Passer la frontière sans encombre, retrouver ma chérie, voir l'herbe grasse sous les décombres et croire en l'avenir.
Bonjour à tous, bienvenue dans Frontières, votre rendez-vous du mercredi après-midi. Chaque semaine, nous dépassons nos limites, nous franchissons avec vous les obstacles de la pensée qui amènent parfois à un point de friction, de tension, où plusieurs entités s'affrontent. Frontières se veut avant tout de détruire les préjugés. Aujourd'hui, nous sommes en direct de l'exposition Vue à la radio qui se déroule à Tour et Taxi pour une émission dédiée à la frontière physique, qu'elle soit relative au toucher, à l'ouïe ou à la vue. Aujourd'hui, nous abordons la frontière du corps par le handicap. Commençons tout de suite avec Emmanuel et des chiffres qui se précisent.
Et oui, Laurent, le secrétaire d'État aux personnes handicapées, Philippe Courard, a récemment communiqué le nombre détaillé de personnes handicapées en Belgique. Ces données étaient inconnues ou imprécises jusqu'alors, et en moyenne, 7% des Wallons ont un handicap, pour seulement 2% en Flandre. Le secrétaire d'État a indiqué que ces données sont essentielles pour une politique adaptée aux besoins de ces personnes, et notamment en matière d'accessibilité et de financement des allocations. Selon le dernier rapport du service public fédéral, le handicap représente un budget de 1,8 milliard d'euros par an. Donc c'est d'ailleurs un budget qui augmente. L'agence flamande pour le handicap prévoit une hausse de 3% des personnes sollicitant son aide d'ici 2020.
Merci Emmanuel. Vous l'avez entendu, des fonds sont débloqués pour améliorer le soutien et le soin aux personnes handicapées. Pourtant, ce n'est pas suffisant pour une intégration totale de ces personnes. Comment garantir un meilleur accès aux infrastructures? Comment apprendre ou réapprendre à vivre avec un handicap? Voilà les questions sur lesquelles nous nous pencherons dans un instant. Au sommaire de cette émission, du football pour les personnes malvoyantes. Cette pratique spectaculaire est l'initiative de CCFoot et ouvre un peu plus l'accès au sport aux personnes handicapées. Nous avons également rencontré Philippe Arméni, fondateur de l'association Passe Muraille. Et pour mieux comprendre le handicap, l'équipe de Frontières s'est assise le temps d'une journée dans un fauteuil roulant. Il fallait le vivre pour s'en rendre et pour s'en rendre compte et pour mieux vous en parler. Un programme chargé, sans doute avec quelques zones d'ombre. Et pour les éclairer, nous avons fait appel à Virginia Lipuma, chargée des relations publiques à l'AWIP, l'Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Virginia Lipuma, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Avant de vous donner la parole, nous allons d'abord demander l'avis des Bruxellois. Alors, comment perçoivent-ils l'intégration des personnes handicapées? Nous avons baladé notre micro dans la capitale pour le savoir.
Personnellement, moi j'ai l'impression... Quand on voit un handicapé, on essaye de l'aider si on sait, mais c'est pas facile parce que parfois on est pressé, chacun a sa propre vie et donc on se rend pas compte qu'ils ont peut-être besoin de nous et donc à mon avis on passe à côté d'actions qu'on devrait faire et qu'on fait pas.
Malgré les stéréotypes, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau des mentalités et voilà, du quotidien des personnes, qui a beaucoup plus de respect envers ces gens-là et donc voilà.
J'étais en Autriche il y a quelques mois et je voyais que là-bas, t'avais des gens handicapés partout, même dans les transports en commun et tout. Alors qu'ici, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, alors que c'est pas vrai. Enfin, il y en a d'office et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sortent pas trop de chez eux, j'en sais rien.
Je pense que les enfants ne comprennent pas ce qui se passe et donc... moi parfois je me promène avec mes scouts et ils vont pointer du doigt quelqu'un parce qu'il est, on va dire, différent. Bon alors là, je les engueule et je leur dis... t'aimerais pas être à sa place, mais maintenant, je sais pas si ça rentre dans leur petite tête de gosse de 6 ans. Quoi.
Je pense qu'on va toujours quand même vers une amélioration. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de choses qui sont rendues obligatoires pour les handicapés. Donc je pense que ça va de mieux en mieux. Maintenant, ça va peut-être pas assez vite, quoi, si c'est possible.
Il y a encore une forte mentalité qui est un peu contre l'intégration des handicapés. Ouais.
Je pense qu'il y a encore des gens qui les regardent dans la rue et ça c'est clair, si ça change pas comme ça. Je me dis que si je la regarde pas, pour elle ça doit être aussi difficile à vivre que les gens, que personne la regarde parce que justement on est gêné. Donc je dirais pas que je la regarde, mais en fait je la regarde pas fixement, mais je la regarde comme si c'était quelqu'un d'autre en fait. Et pour moi, j'essaye de les intégrer. Enfin, si je la croise ou que je la connais ou quoi, j'essaye de l'intégrer, quoi.
Ok, ils sont différents, mais après, ça reste des personnes comme tout le monde. Et ils ont des divisions plus dures que nous, mais après, il faut essayer de leur faciliter la vie et de les intégrer au maximum, quoi.
Alors, Virginia Lipouma, on l'a entendu dans ce micro-trottoir, des gens qui ne sortent pas beaucoup, des regards d'enfants curieux. Une réaction peut-être après ces quelques témoignages ?
Oui, enfin, moi déjà, ce qui m'a plu quand même dans ce reportage radio, c'est qu'on voyait quand même qu'il y a des gens qui se rendent compte et qui vont au-delà des préjugés. Maintenant, c'est vrai que les préjugés, quand ils sont là, ça vient surtout d'une méconnaissance finalement du handicap, et quand on ne connaît pas quelque chose, quand on n'est pas directement concerné, fatalement, voilà. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il y a beaucoup d'handicaps invisibles. Voilà, il y a des handicaps qui ne se voient pas au premier regard. Et donc voilà, mais c'est vrai que face à tous ces préjugés, nous, la WIP, une de nos missions, c'est vraiment de sensibiliser. Le public à se rendre compte que les personnes handicapées, elles ont des compétences. Et voilà, c'est plus que leur handicap. Ce sont des personnes. Voilà.
Et dans ce micro-trottoir, on parle donc d'intégration des personnes handicapées, mais on emploie aussi le terme inclusion. En quoi consiste la différence entre ces deux démarches ?
L'inclusion, en tout cas, c'est quand le monde, la société va s'ouvrir aux personnes handicapées, alors que l'intégration, c'est permettre, voilà, c'est la base, en fait, c'est de permettre aux personnes d'être intégrées dans la société. Alors que l'inclusion, là, c'est une ouverture de la société dès le départ. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Avant de poursuivre, nous allons nous plancher sur quelques définitions afin de mieux comprendre ce qu'est un handicap et la place qu'il occupe en Belgique. Et c'est avec Barbara que ça se passe.
Panorama.
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 Alors Barbara, pourrais-tu nous éclairer sur le sujet ?
Oui, Lorraine. Donc, suite à des difficultés pour se déplacer, une perte d'autonomie, des problèmes de vue ou encore d'ouïe, tout le monde peut être confronté à un handicap, qu'il soit permanent ou momentané. La définition du handicap, elle est donc vaste. En effet, dans l'esprit de la législation antidiscrimination et de la Convention de l'Organisation des Nations Unies, le handicap naît de la confrontation entre une défiance qui entraîne, dans certaines situations, des incapacités et un environnement inadapté. Ce qui signifie qu'une même personne peut donc être en situation de handicap dans un contexte donné et pas dans un autre, finalement. Aujourd'hui, on compte plus d'1 milliard de personnes vivant avec un handicap, qu'ils soient sous une forme ou une autre, et près de 200 millions d'entre elles ont de très grandes difficultés fonctionnelles. En Belgique, pour vous donner un chiffre, on compte entre 30 et 40% de personnes à mobilité réduite, donc, en situation de handicap.
Mais qu'est-ce qu'on entend par personne à mobilité réduite exactement, Barbara ?
Eh bien justement, Lorraine, c'est une bonne question. Déjà, il est important de rappeler ce que signifie mobilité réduite. Eh bien, la mobilité réduite, c'est une forme de handicap qui implique une diminution des capacités de déplacement et de mouvement d'une personne. Lorsque l'on parle de personnes à mobilité réduite, il est vrai que le chiffre de 30%, comme je l'ai dit précédemment, il peut sembler important. En réalité, il englobe les personnes avec un handicap permanent, ainsi que toutes les personnes ayant un handicap, si je puis dire, momentané. Donc c'est-à-dire que les femmes enceintes ou poussant un landau, les personnes portant des béquilles, etc., elles en font partie. Car en réalité, construire des infrastructures spécialisées, ça favorise également ces personnes-là. Hein. Que ce soit les rampes, les ascenseurs, des passages suffisamment larges, une femme enceinte avec un landau, elle ne peut pas monter des centaines d'escaliers, par exemple. Donc encore une fois, cela montre bien que le terme handicap, ça a un sens très large.
Et quels sont les enjeux politiques qu'il y a derrière le handicap et comment est-il pris en compte finalement en Belgique ?
Parler des enjeux politiques, Lorraine, c'est assez difficile. Déjà parce que le handicap, ça prend des formes très variées, comme je l'ai dit précédemment. De la simple difficulté à monter un escalier jusqu'aux déficiences particulièrement invalidantes, ça renvoie donc à une population hétérogène qui ne peut pas être appréhendée par un traitement politique et social global. Par contre, on peut dire que c'est un véritable enjeu de société, effectivement.
Et au niveau de l'insertion professionnelle, est-ce que c'est plus compliqué, Barbara ?
C'est justement un point important qu'il en est fait intéressant d'aborder. En effet, le chiffre du chômage en Belgique chez les personnes handicapées, il est frappant puisqu'il s'élève à près de 35%. Donc les questions suscitées par cette situation, elles sont nombreuses. Les personnes handicapées, elles sont parfois très fragilisées. Et c'est vrai que le marché de l'emploi actuel étant saturé, elles connaissent donc beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Encore plus qu'un chômeur, entre guillemets, normal. Quant aux places dans les entreprises de travail adaptées, elles sont limitées et ne conviennent pas à tout le monde et à toute forme de handicap. Ça semble donc être un point très important à aborder. Il est peut-être temps de sonner la sonnette d'alarme. Dans le même registre, le cabinet de la ministre Uyttebroeck, elle a d'ailleurs pointé du doigt un autre problème lui aussi essentiel, celui de l'accompagnement. Il n'existe pas d'accompagnement adapté susceptible d'aider les personnes handicapées à trouver un emploi. Donc c'est vrai que face à cette question, tous les yeux se tournent vers les services régionaux de l'emploi, comme Actiris, le Forem, etc., qui sont censés être en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Mais cela ne semble hélas pas suffisant. Donc pour conclure, on peut remarquer que malgré toutes les dispositions mises en place par la société, entre la multiplication des associations, des dispositions législatives, des opérations de dons comme Cap 48 par exemple, les inégalités, elles demeurent et le handicap reste une cause d'exclusion en termes d'éducation, d'accès aux infrastructures, d'intégration professionnelle, mais aussi d'acceptation sociale.
Merci Barbara pour ces précisions. Donc, elle disait à l'instant que les PMR, les personnes à mobilité réduite, représentent plus de 40% de la population. C'est quand même un chiffre important. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Tout simplement, comme elle l'a expliqué, simplement, c'est que ça englobe plus de personnes que ce qu'on croit. Une personne à mobilité réduite, c'est pas uniquement une personne en chaise roulante. Ça peut être une femme enceinte, un enfant qui est en poussette, quelqu'un qui est en béquille. Donc voilà, fatalement, ça augmente le nombre de personnes. Donc.
Et justement, les associations revendiquent ce pourcentage auprès des politiques afin de donner plus de poids à leurs demandes en termes d'amélioration d'infrastructures. Est-ce que c'est justifié ?
Oui, c'est totalement justifié. Et nous aussi, on a vraiment un message de sensibilisation envers les communes à propos de cette problématique. Pas problématique, mais où on va et on va aller dire vraiment dans les communes, mais voilà, 30% de vos citoyens sont concernés. Il faut réagir. Et alors pour ça, nous, on a créé une charte d'accessibilité qu'on fait signer aux communes. Il y en a une septantaine qui ont déjà signé depuis 2012. Et où, en fait, cette charte, elle demande en fait aux communes de s'engager dans leurs travaux, à prendre en compte le critère d'accessibilité. Quand elles font des marchés publics, elles doivent prendre ce critère-là en compte.
D'accord. Voilà. Et est-ce que les politiques sont réceptives face à ce chiffre, justement, ou est-ce qu'elles ont du mal à y croire, entre guillemets, puisqu'il est très important ?
Non, je ne pense pas qu'elles ont du mal à y croire. Les choses sont ce qu'elles sont. Les personnes à mobilité réduite, ça, c'est autant une personne en chaise roulante qu'une personne vieillissante, qu'une maman enceinte. Et je pense qu'à partir du moment où on représente une commune, qu'on est bourgmestre, voilà, il faut faire attention à ses citoyens. Et donc voilà, je pense que ça compte.
Ok, merci Virginie Lipuma. Alors dans un monde du travail toujours plus rapide et en quête d'économie, l'accès à l'emploi des personnes handicapées n'est pas chose aisée en Belgique. Pourtant, c'est une étape fondamentale pour leur inclusion dans la société. Emmanuel Sanseo est parti à la rencontre de deux acteurs de terrain en région bruxelloise. Reportage. deux mondes qui ne se connaissent pas, c'est plutôt tranché comme avis. Est-ce que la frontière est si infranchissable entre le monde du travail et le handicap ?
Bah écoutez, c'est vrai que trouver un emploi, c'est pas toujours facile pour une personne en situation de handicap, mais on l'a vu, pas seulement pour une personne en situation de handicap. Alors nous, à la WIP, notre travail, c'est vraiment de veiller à la promotion de l'emploi, à soutenir l'emploi, favoriser l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Et alors pour ça, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on sensibilise les employeurs. D'ailleurs, demain, on a un gros événement qui va se passer toute la journée, ça s'appelle le Duo Day. C'est un concept tout à fait simple, c'est-à-dire qu'un employeur et un candidat en situation de handicap créent un duo pour une journée, et alors la personne handicapée va pouvoir se rendre compte des tâches, se rendre compte si le poste est adapté pour lui, et donc il peut réadapter peut-être sa recherche professionnelle, mais alors c'est doublement gagnant, parce que l'entreprise, elle va pouvoir se rendre compte que la personne handicapée, elle a aussi des compétences, elle a une plus-value, donc c'est gagnant-gagnant. Donc nous, c'est ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de sensibiliser les employeurs à cette question-là.
Donc on voit que des initiatives sont mises en place pour sensibiliser les gens, mais on se rend compte que il y a des quotas dans le secteur public qui ont été mis en place. Est-ce qu'ils sont respectés ?
Oui, ils sont respectés pour la plupart. Donc cette obligation d'emploi, elle est de 2,5%. Donc ça veut dire, en gros, si on a une entreprise de 100 personnes, ils devront engager, on se met dans la situation, 5 mi-temps, pardon. Et donc oui, c'est respecté parce que c'est une obligation d'emploi pour le secteur public. Il faut savoir que c'est pas pour le secteur privé, mais que ce soit secteur public ou secteur privé, nous on encourage vraiment les entreprises à engager des personnes en situation de handicap.
Donc dans le secteur privé, il n'y a pas de quota ?
Il n'y a pas de quota, non.
Donc du coup, est-ce qu'il y a encore des démarches à faire pour essayer d'envisager que le secteur privé engage aussi des personnes handicapées ?
C'est toujours la sensibilisation. Et alors nous, en dehors de la sensibilisation, on a vraiment tout ce travail auprès des employeurs où on est là pour apporter une aide, des conseils, des informations, relayer les bonnes pratiques. Il y a aussi tout ce qui est intervention sur le terrain. On peut aller dans l'entreprise, aménager le poste de travail, voir vraiment entre l'employeur et l'employé comment ça peut se faire. Donc nous, je vous l'ai dit, c'est vraiment favoriser l'emploi et c'est vraiment aider le travailleur, mais aussi l'employeur, à partir du moment où il a une démarche d'engagement de personnes en situation de handicap.
Merci Virginia Lipuma pour ces précisions. Je rappelle donc que vous êtes chargée des relations presse à la WIP, l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, et vous êtes avec nous en direct pendant l'émission. Alors, admirer l'œuvre de Rimbaud quand on est aveugle ou assister à un concert quand on est sourd, des situations qui peuvent paraître compliquées, voire même impossibles, et pourtant des associations se battent sur le terrain pour rendre la culture accessible à tous. Au-delà du handicap, l'art abolit les frontières. Reportage.
C'est le centre de la composition et c'est un chapeau rouge porté par un personnage moustachu. Devant lui se tient un homme, il y a du sang qui sort de sa bouche, un autre individu le ceinture, il tient dans sa bouche fermée, serrée entre ses dents un poignard ensanglanté.
Le martyr de Saint-Liévin prend vie sous les mots de Marie-Suzanne Gillemont. Grâce au programme Equinox, elle sert de guide aux personnes aveugles au musée des Arts Royaux de Belgique. Pour cela, le musée s'est équipé d'un matériel adapté.
Tout un matériel tactile, des tissus, des qualités de tissus que l'on retrouve dans les tableaux, des tactiles que l'on fabrique également, qui vont reprendre la composition. Il y a une demande. Elles ont vraiment besoin de manipuler quelque chose pour ancrer ce qu'elles ont entendu dans le concret.
Mais le toucher n'est pas le seul sens stimulé. Louis joue aussi un rôle important pour découvrir un chef-d'œuvre.
Nous travaillons ici avec une musicologue qui va faire des liens pertinents entre l'histoire de la peinture et l'histoire de la musique. Parce qu'elle va communiquer ce qu'on ne peut pas communiquer autrement à une personne aveugle, me semble-t-il, c'est l'émotion.
Communiquer l'émotion par la musique, un pari qu'a souhaité relever Christiane Brockmann pour les personnes sourdes. Elle est interprète en langue des signes pour les concerts des Francopholies de Spa. Un travail de longue haleine.
Une fois que le programme a été officiellement annoncé, nous on regarde un petit peu dans le planning des chanteurs francophones. Et puis on se répartit les chansons parce qu'on est trois interprètes pour chaque concert. Et là commence donc la phase de préparation où évidemment c'est la mémorisation de la chanson proprement dite. Et puis il y a tout le travail linguistique pour le transmettre en langue des signes. Et puis après il y a tout le travail de la mémorisation en langue des signes et de la rythmique
du rime, et donc on doit être en phase avec le chanteur. Donc on n'est pas dans une interprétation où on a un décalage, on est vraiment dans une interprétation où c'est quasi nous qui, entre guillemets, chantons la chanson en langue des signes, tout en faisant attention à ce qui se passe sur scène. Pour une chanson, il faut 4 à 5 heures de préparation.
Mais la préparation ne suffit pas toujours. Dans certains cas, la langue des signes reste limitée.
Mais par exemple, des chanteurs qui sont très forts dans le jeu de mots, ou du rap par exemple. Je pense à Grand Corps Malade, qui a quand même un langage assez imagé, assez fort. Et donc, ça, il faut que l'on puisse, nous, ne pas devoir toujours paraphraser pour pouvoir interpréter les sous-entendus, etc. Donc, parce qu'il faut qu'on soit en même temps que le chanteur. Et donc, c'est vrai qu'il y a des paroles qui... On peut les comprendre, on peut les traduire, bien sûr, mais pas dans le cadre d'un concert.
Dans ces cas-là, d'autres aménagements sont mis en place. Plancher vibrant et ballon de baudruche, pour les sourds, la musique passe avant tout par les vibrations. Maurice Ayard, directeur de Surdimobile et vice-président de la Ligue des droits de la personne handicapée.
Je sens les vibrations, ça monte, ça vient. Je peux aussi avoir... Un gobelet, pour moi, ça vibre dans le gobelet, ça me permet de sortir la musique. On peut aussi avoir un ballon gonflé, il sait que ça, les vibrations.
Grâce à ces vibrations, la musique fait partie intégrante de la vie de Maurice.
En voiture, quand je suis en voiture, je mets la musique. Je mets souvent la musique de Bruce Springsteen. Je la mets presque en fond, ça me détend. Je sens les vibrations, mais ça me permet d'avoir une sensation de la musique. La musique m'accompagne. La musique n'a pas la même importance pour la personne qui entend. Je suis fasciné à toute la musique tous les jours, mais une personne sourde devrait pouvoir partager ce sentiment-là.
Partager des expériences communes, donner un accès à la culture, grâce à ces initiatives, les passeurs d'art franchissent quotidiennement la frontière du handicap.
Ce reportage de Camille Loiseau vous a peut-être donné envie de bouger, et ça tombe bien puisque nous allons marquer une courte pause en musique avant de nous retrouver pour la deuxième partie de l'émission, toujours avec notre experte en studio Virginia Lipuma. Pour l'heure, place à la musique, Radio Campus vous envoie de bonnes ondes avec Grand Corps Malade et Sixième Sens.
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent, pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat, on est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi, pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie, souviens-toi de ses sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle? Vas-y, tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours à l'écoute de Frontières, l'émission des étudiants en journalisme de l'ULB. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la frontière du corps et plus précisément au handicap. Toujours avec nous en studio et en direct pour en parler, Virginia Lipouma, chargée des relations publiques à la WIP, l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
Tout à fait.
On parlait tout à l'heure des sorties culturelles. Il y a aussi les entraînements sportifs. Du sport pour vaincre son handicap, c'est une des solutions qui peut être envisagée afin d'en découvrir les bénéfices. Barbara s'est rendue à un entraînement de cécifoot à Bruxelles. Alors le cécifoot, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est du football pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Le ballon est sonorisé par des grelots de chaque côté. Et de chaque côté des buts, il y a des guides qui donnent de la voix pour orienter les joueurs au mieux vers le but adverse. Alors les adeptes sont nombreux. D'ailleurs, depuis 2004, le cécifoot est devenu une discipline paralympique. Alors comment le sport peut-il devenir une force et un moyen de surmonter son handicap ? Barbara nous le fait découvrir.
Ici, le repère, c'est le son, celui du ballon qui a des grelots, les indications de l'entraîneur et surtout celui de sa voix et de celle de ses coéquipiers. Une manière d'éviter les chocs frontaux notamment. À Bruxelles, l'équipe s'entraîne depuis 14 ans déjà. Nicole Bardaxoglou, directrice du Cécifoot de Bruxelles.
L'initiative vient du fait que j'ai un fils qui est malvoyant, on l'a su quand il était bébé, et qu'il était passionné de foot mais ne pouvait pas pratiquer dans un club ordinaire. Et que lors d'un congrès de psychologie du sport auquel j'assistais, j'ai vu des Brésiliens qui présentaient un poster concernant ce sport. Et donc en 2000, en rentrant de ce congrès, j'ai décidé d'essayer d'implanter le Five-a-Side en Belgique.
Le five-a-side en anglais, c'est avant tout une pratique physique et ludique qui participe au bien-être mental et social de l'individu en déficience visuelle. Nicole Bardaxoglou.
C'est un des objectifs majeurs de notre association, c'est effectivement de développer une activité sportive, mais dans le cadre d'une intégration sociale beaucoup plus générale. Je pense que le regard sur la personne handicapée est occupé à changer un petit peu dans la société, il reste encore énormément à faire. Leur permettre d'avoir un lieu d'épanouissement en dehors de leur travail ou de l'école, c'est certainement très important. Et en plus ici, l'équipe est bien voyant, donc ça veut dire qu'ils sont aussi non pas dans une activité de ghetto, mais ils sont avec d'autres jeunes.
Comme le football classique, le cécifoot propose une multitude d'exercices différents pour améliorer la technique, les passes et le placement. Un environnement qui met en confiance les joueurs. Michael Coeur, entraîneur de l'équipe cécifoot de Bruxelles.
C'est aussi un endroit où il n'y a plus les contraintes de la vie quotidienne pour un malvoyant ou un aveugle, c'est-à-dire la peur de percuter quelqu'un, la peur de traverser, toutes ces choses-là. Là, ils sont dans un environnement qui est sécurisé, ils sont dans une salle avec un entraîneur, avec souvent un guide, avec des personnes qui aident, et donc ils se sentent en sécurité. Et c'est un petit moment de liberté pour eux au niveau du déplacement. Donc ça, plus tous les aspects qu'apporte le sport, hein, comme le foot traditionnel pour les voyants, c'est un côté épanouissant.
Des sportifs à part entière donc, et qui s'investissent un maximum dans leur activité. Valentin pratique le cécifoot depuis 14 ans.
Là on a affilié au championnat de France. Donc là en fait chaque année on participe donc, avec les équipes françaises, diverses équipes françaises, et on participe aussi à la Coupe de France.
Et qu'est-ce qui te plaît dans
le... Bah, la compétition, le fait de se mesurer aux autres joueurs, le fait de se mesurer à des joueurs paralympiques. Voilà.
Pratiquer le sport pour ces jeunes en déficience visuelle, c'est aussi un moyen de lutter contre la sédentarité et de développer leur autonomie.
Je pense qu'il y a des jeunes qui avaient déjà un certain potentiel de confiance en eux et où ça n'a pas changé énormément. Par contre, il y en a qui au niveau des déplacements avaient très peu de confiance en eux et qui maintenant ont pris une véritable assurance. Ça se travaille de manière hebdomadaire, ça se travaille en dehors aussi puisqu'ils doivent essayer d'être le plus autonomes malgré leur handicap. Mais donc effectivement, je pense qu'il y a cette confiance en soi qui s'installe progressivement et c'est certainement un des grands buts que nous recherchons. Aussi.
Le cécifoot, comme d'autres handisports, est une possibilité de faire découvrir ou redécouvrir les plaisirs d'une activité physique et de rendre un peu de liberté aux personnes handicapées. Une manière de décloisonner les activités de sport adaptées, d'assumer son handicap, de se l'approprier et de le dépasser.
Alors Virginia Lipoumin, on l'a entendu dans ce reportage, le handicap demande une autonomie supplémentaire pour pratiquer un sport. Peut-être une réaction par rapport à ce reportage.
Nous, on part du principe qu'une personne en situation de handicap, comme tout un chacun, elle a le droit de pratiquer un sport. Que ce soit en fonction de ses envies, donc elle puisse choisir le sport qu'elle a envie de faire, en fonction de ses compétences, en fonction de son niveau. Parce que si on se rappelle les Jeux paralympiques de Londres en 2012, on voit qu'on peut faire du sport tout en étant en situation de handicap et le faire bien, et le faire à haut niveau. Donc pour nous, c'est important de bien rappeler cette chose-là, de dire que voilà, si on a envie de pratiquer un sport, on peut le faire. Donc nous, on essaie vraiment de promouvoir ça, et même dans les événements qu'on parraine, qu'on soutient. Donc vraiment avoir cette dimension-là, voilà, le sport pour tous. Ça doit être accessible à tous.
Et est-ce qu'à la WIP, on vous demande souvent des informations pour pratiquer un sport ?
On a un site internet qui s'appelle Loisirs et Handicap où on peut retrouver toutes les informations si on veut faire un sport qui soit adapté ou pas, parce qu'une personne handicapée peut faire un sport autre que dans un cercle de sport adapté. Il y a des tas d'exemples de personnes qui font du sport avec des personnes valides. De toute façon, elles peuvent retrouver toutes ces informations-là sur le site Loisirs et Handicap, comme je l'ai précisé. Et sinon, il y a la Ligue Handisport. Alors, là, qui ne dépend pas de nous, mais qui a un site internet bien fourni où on peut trouver l'ensemble des clubs en fonction de sa région.
D'accord. Donc voilà un premier pas pour favoriser l'intégration. Disons surtout que pour franchir entièrement à la frontière, le mieux serait encore que chaque personne handicapée puisse pratiquer un sport, disons, avec des personnes non handicapées.
Tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. Et on voit vraiment que... Oui, bon, voilà. Oui, c'est vraiment important. Et on voit, comme je le disais, qu'avec ces Jeux olympiques ou paralympiques, on voit vraiment les talents des personnes. Et ça permet voilà, d'avoir vraiment toute cette médiatisation, de donner une image positive, en tout cas.
L'accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées, la question revient souvent et pourtant difficile de définir si Bruxelles fait plutôt partie des bons ou des mauvais élèves en la matière. Pour en avoir le cœur net, Camille a passé une journée en fauteuil roulant aux côtés de Miguel Guérez, directeur de la SBL AMT Concept, qui se bat pour l'accessibilité pour tous. Alors Camille, comment ça s'est passé cette immersion ?
Oui Lorraine, alors je dois avouer que j'étais un petit peu inquiète à l'idée de passer une journée en fauteuil. Il faut dire que dès l'installation, je n'étais pas tout à fait à l'aise.
Voilà, d'accord. Et avant de te relever, tu remontes les cale-pieds pour d'accord. Pas te casser la figure.
Donc ça, c'est les freins, c'est ça ?
Oui.
Je suis. Alors après quelques minutes, j'ai vite compris que les proportions étaient totalement différentes. Par exemple, j'avais du mal à imaginer que mon premier obstacle serait un trottoir de 5 cm.
Ah non, c'est impossible.
Je réessaye. Est-ce que ça, je peux le monter toute seule ou pas ?
Voilà, c'est 2 cm, ça a l'air de rien. Puis quand on est en chaise et qu'on doit passer, ben, on passe pas.
Alors les trottoirs, les pentes un peu trop inclinées, les pavés, chaque petit détail compte. Après quelques minutes, mon œil commençait à repérer ces petits contretemps. J'avais même réussi à coordonner mes bras pour avancer en ligne droite plutôt qu'en cercle. Bref, j'avais l'impression que tout allait comme sur des roulettes jusqu'à l'épreuve du bus. Alors monter dans le 71 en temps normal, c'est déjà un challenge, mais en fauteuil roulant, c'est quasiment impossible. En plus, ce jour-là, la rampe ne marchait pas. Heureusement, le chauffeur a fait des pieds et des mains pour nous aider à monter.
Ah, il est là.
Pas de rampe.
9 chances sur 10 que ce soit pas opérationnel ou que le chauffeur ne sait pas l'utiliser. Non.
Ça va pour vous ?
Oui.
Et vous descendez où ?
Après la gare centrale.
Après la gare centrale, là. Voilà, ça va comme ça ?
Voilà, super.
Merci monsieur. C'est hyper angoissant.
Gare centrale, correspondance, chemin de fer et métro ligne 1 et 5.
Alors, à peine le temps de me remettre de l'épisode du bus qu'il fallait déjà monter dans le métro, de Gare Centrale à Dobroukère, une seule station donc. En temps normal, ce trajet m'aurait pris 5 minutes. Ce jour-là, il nous en a fallu 3 fois plus, rien que pour trouver l'ascenseur pour descendre sur les quais.
Ouais, je vois toujours pas d'ascenseur, ça m'inquiète un peu. Je comprends pas trop comment on va faire ça là, s'il y a que des escalators. Ouais, on est un peu perdu.
On cherche l'ascenseur pour descendre sur les quais.
Ah, on a un ascenseur. Mais apparemment, je pense qu'on peut rentrer qu'une personne à la fois dedans.
On peut rentrer à deux, ouais.
Alors, une fois sur les quais, il a fallu trouver le wagon réservé aux personnes à mobilité réduite. Il est indiqué par un petit panneau bleu auquel je n'avais jamais prêté attention avant. Le temps d'y arriver, j'entendais déjà le bruit des portes qui se refermaient. On monte dedans de justesse donc, et avec l'aide de 4 personnes. Il n'en fallait pas moins pour nous aider à porter le fauteuil et franchir l'écart d'une dizaine de centimètres entre le wagon et la plateforme.
J'avais oublié de mettre les freins.
Alors au final, le plus délicat, pour se déplacer en fauteuil dans la ville, ça reste les transports en commun. Mais pas seulement, le manque de cohérence dans les travaux fait que traverser la ville devient vite un vrai parcours du combattant. Et en guise de blessure de guerre, je garde encore des brûlures aux mains et des crampes aux avant-bras.
Eh bien, merci Camille. Donc nous venons d'aborder ensemble l'accessibilité des lieux publics. L'autre lieu public qui peut poser problème, c'est l'école. L'accès à l'enseignement pour les personnes handicapées n'est pas toujours évident. Quelles sont les démarches à suivre? Barbara a rencontré Dominique Dugnol, coordinatrice du service de l'emploi et des aides à l'intégration du service phare, personnes handicapées, autonomie recherchée. Elle lui a demandé comment se déroule une inscription à l'école pour une personne avec un handicap.
L'inscription se fait comme pour tout autre enfant. La grosse difficulté qui existe sur le terrain, c'est essentiellement les a priori, les préjugés, l'inquiétude des enseignants de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir accueillir correctement cet enfant. Et donc certains parents rencontrent des difficultés à ce niveau-là.
Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a quand même plusieurs étapes, je suppose, dans le processus de scolarisation et comment ça se passe exactement?
Souvent, ça vient des parents, l'envie de scolariser l'enfant dans l'enseignement ordinaire. Soit ils inscrivent directement leur enfant dans l'enseignement ordinaire et alors ils demandent les aides de notre service. Nous avons aussi des services qui aident à l'intégration scolaire des enfants, donc qui apportent un soutien à l'enfant. Une autre piste qui existe via la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est d'inscrire l'enfant dans l'enseignement spécialisé, même s'il fréquente partiellement ou totalement une école ordinaire, mais ça lui permet d'avoir 4 heures par semaine de soutien du personnel spécialisé de l'école d'enseignement spécialisé. Donc il y a en fait 2 formules différentes.
Et est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles qui permettent, en Belgique ou notamment à Bruxelles, qui permettent ce genre de scolarisation?
C'est vraiment une question de volonté de la direction et de l'équipe pédagogique de l'école. J'ai déjà pu observer une école qui était complètement accessible à quelqu'un en chaise roulante mais qui ne voulait pas l'accepter. Et j'ai aussi vu des écoles qui avaient des gros problèmes d'accessibilité architecturale, mais qui ont complètement adapté leur fonctionnement pour pouvoir accueillir ce genre d'enfants. Donc c'est vraiment une question de volonté, de motivation, de sensibilisation du personnel scolaire.
Et au niveau de l'intégration de ces enfants, généralement ça se passe plutôt bien?
Souvent, ça se passe très bien. Ça apporte même parfois des choses positives pour les autres enfants, même souvent des choses positives pour les autres enfants de la classe, parce que l'enseignant doit adopter ses méthodes de travail, doit parfois faire des résumés ou expliquer plus certaines choses, et ça profite à l'ensemble des enfants.
Vous me dites que ça vient quand même beaucoup des parents aussi, c'est une démarche qui vient des parents, mais est-ce que le financement peut les arrêter ?
S'ils inscrivent leur enfant dans l'enseignement ordinaire, et que l'enfant a besoin aussi de ses prestations paramédicales, dans ce cadre-là, ils vont devoir faire appel à des prestataires privés et ça leur coûte plus cher. Donc effectivement, les parents n'en sont pas toujours conscients, mais il y a aussi des effets au niveau... C'est pas normal, c'est pas logique, mais les choses sont telles qu'il y a parfois des impacts au niveau du coût pour les parents.
Ouais, donc du coup, il y a quand même une injustice aussi à ce niveau-là.
Tout à fait.
Alors, on vient de le voir dans ce reportage, l'enseignement est adaptable pour les personnes handicapées. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de scolarisation des parents dans des écoles dites normales ?
J'ai pas de chiffres précis, mais je pense que oui. Enfin, ça dépend, en fait, comme elle l'expliquait, c'était très bien dit. C'est une volonté d'une part de l'école, mais ça doit être aussi une volonté des parents, je pense, que et de l'enfant aussi. Enfin, quoique à cet âge-là, c'est souvent les parents qui prennent la décision. Mais ça doit, des deux côtés, je pense que c'est vraiment une question de motivation et de volonté. Alors c'est vrai, des fois, on a des parents qui sont motivés et qui veulent que leur enfant soit dans l'enseignement traditionnel. Et puis, bon, on n'a pas une réponse favorable de l'école. Voilà. De temps en temps, ça ne se rencontre pas, malheureusement. Et puis, ben, y a des exemples aussi positifs. Il y a des écoles qui travaillent vraiment l'inclusion, où on a des enfants valides et des enfants invalides. Il y a, par exemple, une école super à Namur où il y a une immersion en langue des signes et où on a des enfants valides, enfin, en situation de handicap et des enfants sourds et des enfants qui ne sont pas sourds et tout se passe bien. Donc voilà, ça dépend, c'est une question de motivation, de volonté, mais je pense des deux côtés de toute façon.
Et dans ce reportage, on évoquait aussi les aides que les parents peuvent demander. Vers qui doivent-ils se tourner ?
C'est la communauté française alors qui est compétente.
D'accord. Et est-ce que le fait que des enfants avec un handicap et des enfants non handicapés se côtoient, ça favorise, disons, l'un et l'autre ?
Oui, évidemment. Nous, c'est comme pour tout, nous, on sensibilise vraiment à l'inclusion et au fait qu'il y ait des rencontres, des partages. Je pense qu'un enfant en situation de handicap qui est dans une école avec des enfants qui ne sont pas en handicap, que ce soit pour un ou pour l'autre, l'expérience, elle est enrichissante.
Merci Virginie Lipouma pour ces informations.
De rien.
Attention, ne souriez pas.
Passeport.
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 Attendez quelques instants, vos photos seront bientôt disponibles. Philippe Arméni est le fondateur de Passe-Muraille, une ASBL qui lutte depuis 16 ans pour une meilleure inclusion des personnes handicapées dans notre société. Emmanuel est parti à sa rencontre à Mons, au siège de l'association, portrait d'un militant qui a su écraser les barrières de son propre handicap.
En apparence, Philippe Arméni ne montre aucun signe de handicap. Il se déplace, travaille et s'adresse à vous comme n'importe qui d'autre. Et pourtant, il est atteint d'une maladie génétique de la rétine qui le condamne petit à petit à la cécité. Aujourd'hui, sa vue est réduite à moins de 5%. À 51 ans, le président de la SBL Passe-Muraille a su maîtriser son handicap.
Alors déjà, le terme de barrière, je pense qu'il est d'un individu à l'autre. Pour moi, mon handicap n'a pas été une barrière, si, peut-être à l'annonce du diagnostic à un moment donné. Mais ensuite, je pense que c'est avant tout un facteur psychologique qu'on met en œuvre qui fait qu'on se voit handicapé, on se voit comme acteur de la société avec sa différence, comme n'importe quel autre différent. Même si cette maladie m'amène à la cécité complète, qui est le cas peut-être prochainement, j'ai la chance d'être porteur d'un handicap qui ne me fait pas souffrir, qui est invisible, c'est parfois un handicap en soi. Et donc, en fonction des contextes et des situations, c'est vrai qu'il va y avoir des moments où il va m'emmerder un peu plus que d'autres. Quand je le remets à place, il essaye de se recaser à un endroit où il peut, pour que je puisse continuer à vivre.
Avant de fonder Passe-Muraille en 98, Philippe Arméni était un militant pour l'inclusion des personnes handicapées en Belgique. C'est son combat identitaire qui l'a mené au monde associatif.
J'ai 51 ans maintenant. Il y a 30 ans, il y avait surtout de grosses structures mutualistes qui combattaient pour la personne handicapée, qui étaient, pour moi, à mes yeux, beaucoup trop réducteurs dans l'approche. Comme j'ai vécu les licenciements à cause de mon handicap en termes de discrimination, mais il n'y avait pas de loi anti-discrimination comme on peut en avoir maintenant, à un moment donné, je me suis beaucoup battu sur l'emploi, tout seul. Peut-être à l'époque, c'était aussi une notion d'exister. de dire mais c'est scandaleux d'être viré trois fois à cause de son handicap. Et donc je pense que j'avais besoin d'avoir ces coups de gueule, j'avais besoin de dire mais on existe et démontrer que la personne handicapée n'était pas un citoyen de seconde zone.
Aujourd'hui, Passe-Muraille occupe une place majeure pour la défense des personnes handicapées en Belgique. La SBL mène des actions de sensibilisation du public, de formation pour les entreprises et de conseil en accessibilité. 9 personnes y travaillent aujourd'hui.
C'est pas Philippe Harmony en tant que personne. Moi, je suis mis un peu de choses là-dedans. Hein ? Je suis juste un moteur avec toute une carrosserie, un attirail, des collaborateurs qui croient en des valeurs d'humilité, les valeurs d'humain. Et donc, au travers de ça, ce sont l'ensemble des outils que nous développons qui permet de mettre en œuvre tout le travail qu'on développe au quotidien et qu'on développe maintenant depuis 16 ans, qui est quand même pas trop mal. Vous savez, mon plus grand souhait, ça serait quoi ? Ça serait tout simplement qu'un jour, je puisse dire « on ferme boutique, c'est terminé, on n'a plus besoin de nous ».
Alors, on ferme boutique, on n'a plus besoin de nous. Voilà des termes plutôt optimistes. Hein. Finalement, la présence de ces aides partout en Belgique prouve qu'il y a encore un manque d'intégration totale. Sinon, elles n'existeraient simplement pas.
C'est pareil pour nous.
Hein. Est-ce que ces ASBL et ces associations seront encore longtemps nécessaires, d'après vous ?
Je pense que oui. Le travail que font les associations, elles sont sur le terrain, elles représentent les personnes en situation de handicap. Et il n'y a rien à faire, elles sont écoutées. C'est un poids. Voilà, c'est... Quand elles viennent avec des revendications, on les écoute. Et nous, d'ailleurs, face aux associations qui représentent les personnes en situation de handicap, les associations de famille, on est vraiment très à l'écoute et on est vraiment dans la collaboration avec eux parce que c'est vraiment important. Vous voyez, donc oui, je pense qu'elles ont toutes leurs raisons d'être.
Alors Philippe Harmony expliquait dans ce portrait qu'il a subi des licenciements dans le passé à cause de son handicap, 3 pour être plus précis. C'est encore possible aujourd'hui de se faire virer à cause de ça ?
Malheureusement, on voit que oui, il y a encore des discriminations à l'emploi. La dernière enquête du Centre pour l'égalité des chances en parlait aussi. Malheureusement, oui, on est face à ça, face à des préjugés qui font que malheureusement, certaines personnes perdent leur emploi à cause finalement d'une méconnaissance du handicap parce qu'il y a des fausses idées. C'est pas parce qu'au cours de sa vie, voilà, on peut tomber malade, on peut devenir handicapé. C'est pas pour ça que les compétences, elles sont plus là. Je pense que ça vient d'une méconnaissance du handicap, en fait.
Voilà. Vous parlez de discrimination face à l'accès à l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une discrimination générale face au handicap ?
Oui, je pense qu'il y a encore une discrimination. La preuve, on a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire, donc c'est bien la preuve. Et comme le disait très bien Philippe Harmony, le jour où on n'aura plus besoin de nous, ce sera très bien. Mais bon, là, on a encore du travail à faire au niveau de la sensibilisation. Ça avance, les représentations sociales sur le handicap, elles évoluent petit à petit. Mais voilà, c'est encore là et...
Alors, j'aimerais qu'on revienne un instant avant de nous quitter sur le côté caritatif du handicap. On connaît notamment Cap 48. Alors, pourquoi des opérations de solidarité comme celle-là sont encore nécessaires en Belgique ? Est-ce qu'il y a un manque d'investissement des services publics ?
Moi, je pense pas qu'on puisse parler de manque d'investissement. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est qu'en fait, Cap 48, pour moi, c'est une superbe organisation parce qu'elle a porte vraiment de la lumière sur le handicap. Elle permet vraiment de donner une image positive. Il y a la médiatisation. Pour nous, c'est pas toujours facile. Par exemple, à la WIP, nous, il y a des personnes handicapées qui ne nous connaissent pas encore. Donc vous imaginez, si les personnes handicapées ne nous connaissent pas, le grand public, alors que ce que c'est. Et alors c'est difficile de sensibiliser au handicap et après de sensibiliser les ministres, etc. Alors qu'une opération comme Cap 48, il y a vraiment tout ce côté médiatisation qui est vraiment positif. Je pense. Et c'est pour ça que ça a là aussi toute sa raison d'être.
Donc il faudrait encore plus de sensibilisation pour que chacun soit conscient des problèmes qui
nous
entourent.
Oui, je crois qu'il faut, il faut développer ces sensibilisations. Il faut développer, il faut diffuser les bonnes pratiques en matière de handicap, en matière d'inclusion. Il y en a partout. Ça se fait dans les associations. Nous, on en fait aussi. Je pense qu'il faut vraiment diffuser ça. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment changer l'image du handicap.
Voilà. Bah, du coup, vous parlez des associations, il y en a eu de nombreuses dans cette émission. Mm-hmm. Est-ce qu'on ressent un manque d'associations en Belgique ou au contraire, est-ce qu'il y en a trop et que ce serait mieux de les centraliser ?
C'est difficile de dire s'il y en a trop ou pas assez. Moi, je trouve que voilà, c'est très bien qu'il y ait autant d'associations qui représentent les personnes en situation de handicap. Après, les centraliser, je pense que c'est à elles directement qu'il faudrait peut-être poser la question. Mais en tout cas, comme je le disais, elles ont toutes leurs raisons d'être. Et voilà, nous, on travaille vraiment avec les associations. C'est important pour nous.
Donc il y a vraiment une entrée de main dans la main entre associations.
Vraiment. Et voilà, elles représentent les personnes en situation de handicap. Elles ont le même objectif. Et nous, c'est pour ça qu'on va vers elles, parce qu'elles sont sur le terrain, elles comprennent. Elles sont à même de comprendre les besoins. Et nous, c'est ce qu'on cherche vraiment, répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Et voilà, c'est vrai qu'en informant ces associations, et qu'elles aussi nous informent, elles reviennent, elles remontent les informations vers nous, je pense que le travail pourrait être fait de mieux en mieux.
Merci beaucoup Virginie Lipouma d'avoir été avec nous pour ce dernier numéro de Frontières. Alors merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis tout au long de cette série d'émissions. Mention spéciale pour notre public présent aujourd'hui. Alors un autre merci aux personnes qui nous ont encadrés, aidés et conseillés, Margot Hardy, David Domingo et Olivier Skognans. Remerciements tout particuliers à l'équipe technique, Frédéric Collignon, Jean-François Henrion, Denis Piron. Et surtout un grand merci à Philippe Delchambre pour la continuité d'antenne, lui qui nous a supportés et épaulés pendant ces 6 semaines. Remerciements à Pure FM qui a gentiment cédé sa place à Radio Campus aujourd'hui à Tour et Taxi. Et puis surtout merci à toute l'équipe de Frontières pour ce travail sans relâche et toujours dans la bonne humeur. Je vous souhaite à tous une excellente semaine sur les ondes de Radio Campus.
Vous venez d'entendre la rediffusion de Frontières, le magazine des seconds masters en journalisme de l'ULB. Belle fin de journée sur Radio Campus.
C'est beaucoup, vous, des radios qui savent tenir un sucre en équilibre sur le nez, hein ?
Radio Campus, Bruxelles, 92.1.